Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Si je calcule bien, il reste 40 heures et 20 minutes au règne de M. Trump.
T'es pas rendu à compter aux secondes? Écoute, on va garder, je pense, la chronique de demain pour se parler de Donald Trump. Parlons-nous un petit peu de ce qui s'en vient mercredi. La cérémonie, si on peut l'appeler comme ça, puis la première journée de Joe Biden. Parce que là, on commence à avoir quand même d'assez bonnes idées à quoi ça va ressembler. Premièrement, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère là, à Washington présentement, là, il y en a plusieurs dans les médias qui ont utilisé l'analogie ou l'image d'une forteresse. Là. Tu sais, c'est le mail national qui est carrément verrouillé, là, que tu ne peux même pas, auquel tu peux même pas accéder. Ce sont essentiellement presque tous les monuments historiques importants, et c'est évidemment l'énorme espace ouvert où ont toujours lieu les cérémonies d'assermentation aux 4 ans qui est maintenant fermé au public. Je ne sais pas si tu avais vu ça pendant la fin de semaine.
Donc, il y aura zéro public, là.
Il y aura presque zéro public. En fait, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de soldats que de spectateurs. Combien de soldats? À peu près 25 000. Puis c'est quoi 25 000 soldats à Washington? Je veux dire, c'est quoi? C'est plus que la présence militaire américaine en Irak et en Afghanistan combiné. C'est incroyable quand tu penses à ça. Et c'est pas juste une question de nombre. C'est que là, écoute, ça donne froid dans le dos, mais ce qu'on rapportait dans les dernières heures, c'est que les autorités américaines, notamment les services militaires américains, ont essayé de passer au peigne fin les 25 000 soldats en question qui ont été dépêchés à Washington, ainsi que les membres des services secrets. Pourquoi? Parce qu'on a une peur, entre guillemets, raisonnable qu'il y ait des éléments anti-Biden là-dedans qui pourraient mener, disons, à des événements pour le moins tragiques lors de la journée de mercredi. Tu sais, je te le rappelle, on parle pas de l'Égypte des années 70, là, quand il y avait un président qui avait été assassiné par des membres de sa propre garde. On est en train d'être censé parler des États-Unis d'Amérique. C'est assez remarquable. Et hier, à la télévision nationale américaine, tu avais une des porte-paroles du président élu, de M. Biden, qui était même pas en mesure de s'engager à 100% pour dire que la cérémonie aurait bel et bien lieu à l'extérieur, sur les marches du Capitole, aussi comme la tradition le veut. Parce que oui, c'est ça l'objectif, mais il y a tellement encore d'incertitudes puis d'inquiétudes dans l'air qu'on n'est même pas sûr à 100% qu'on va pouvoir aller de l'avant avec le plan A. À quoi? 48 heures, c'est incroyable.
C'est fascinant de penser, justement, hein, qu'il y a des craintes. Il y a le déploiement de soldats, t'en parlais. Puis c'est ça, le FBI contrôle, disons, fait une enquête éclair là, sur chacun des 25 000 soldats qui sont déployés, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas un coucou dans le lot.
Un coucou qui serait prêt à passer aux actes. Tu sais, 2 semaines après une tentative pour le moins musclée de coup d'État. T'sais, encore une fois, je le rappelle, on parle des États-Unis d'Amérique. Fait que ça met, je te dirais, le contexte pour la journée de mercredi. Maintenant, à partir de 12:01, normalement, constitutionnellement, Joe Biden va devenir le 46e président. Évidemment qu'on va s'en reparler la journée même. Mais quand on va se parler, toi et moi, mercredi soir, ça va déjà faire quoi? À peu près 5 heures que Biden va être président. Et il y a assez fort à parier qu'il va déjà avoir signé quelques, pour pas dire plusieurs, décrets présidentiels. Parce que là, ce qu'on apprend, c'est que l'équipe Biden veut arriver disons, se mettre à la tâche rapidement. Ce qu'on a appris, c'est que dans les premières heures, dès mercredi, on irait de l'avant avec des décrets présidentiels qui, de un, viendraient renverser le décret présidentiel du début de la présidence Trump. Tu vas sûrement t'en rappeler, ça avait été tellement controversé, ce fameux décret qui venait interdire aux ressortissants de certains pays au Moyen-Orient, surtout là, surtout des pays à majorité musulmane, d'entrer aux États-Unis. Biden renverserait ça dans les premières heures de sa présidence. Ferait en sorte aussi que les États-Unis retourneraient au sein des accords de Paris, évidemment, qui portent là, sur l'environnement, aussi dans les premières heures, et de façon directement liée au Canada, là, viendrait bloquer, ou plutôt en fait rebloquer le projet d'oléoduc Keystone XL, le fameux oléoduc géant, le projet géant qui lie le pétrole albertain de l'ouest du pays à certaines raffineries du sud des États-Unis. Et je te dis rebloquer parce que ce dossier-là, écoute, c'est une saga en soi. Ça fait une décennie qu'on en parle, qu'on en débat. Barack Obama l'avait bloqué lorsqu'il était président. Donald Trump l'avait autorisé lorsque lui est devenu président. Et là, Biden retournerait à la position d'Obama de l'interdire. À Ottawa, je te dirais qu'on essaie d'envoyer le signal comme quoi on veut se battre pour l'oléoduc, Mais en même temps, je pense qu'il faut pas se leurrer, là. Je suis pas sûr que Justin Trudeau va en faire un combat, disons, pour sa vie, là. On est très content au sein du gouvernement canadien d'avoir un changement d'administration à Washington. Mm. Je pense pas que c'est ce dossier-là, même s'il va contre la, disons, la volonté du gouvernement canadien, qui va changer la donne.
Y a-t-il un danger à gouverner par décret?
Oui, un danger ne serait-ce que constitutionnel. C'est-à-dire que dans tous les exemples que je viens de te donner, les décrets que Biden devrait normalement signer dès mercredi, ou en tout cas dans les premières heures, les premiers jours de sa présidence, il n'y a pas vraiment de doute quant à son pouvoir de faire ça. Où ça va devenir drôlement intéressant, c'est au niveau législatif. Parce que ça aussi, son équipe annonce qu'ils vont y aller de façon très agressive, très ambitieuse, dès la première semaine. Ils vont soumettre un plan d'aide économique majeur au Congrès et un plan de réforme de l'immigration là également extrêmement agressif au Congrès. Donc, où ça va devenir intéressant, c'est si justement le Congrès veut pas passer ça. Veut pas passer ce qui est censé être des projets de loi, donc qui est censé passer par le Congrès. Là, qu'est-ce que fait Biden? Est-ce qu'il se dit, ben, sais-tu quoi, tant qu'à rien avoir du Congrès, je vais essayer de gouverner davantage par décret. Donc, je vais signer des décrets, disons, qui poussent à la limite l'autorité du président des États-Unis. Ça va être fascinant, surtout venant d'un président qui a fait campagne, tu l'as vu comme moi depuis la dernière année, sur l'idée de coopérer, que les deux parties recommencent à coopérer ensemble au Congrès, réunifier le pays. Ça risque d'être plus difficile pour lui que ça pouvait l'être, par exemple, pour Trump de gouverner par décret, parce que Trump, disons-le franchement, a jamais vraiment prétendu essayer de gouverner pour le pays entier. Fait que je te dirais que ça va être une des questions les plus fascinantes de la présidence Biden.
Merci beaucoup, Raph. On va se reparler demain.
À demain.